les petits gris. C'est avant tout une race d'escargots fort appréciée des gastronomes. Mais c'est aussi ainsi que l'on surnomme amicalement les frères de Saint-Jean, une communauté nouvelle qui a adopté un habit de couleur gris foncé. Son vicaire général, le père Thomas, nous rappelle les tout débuts de la communauté, fondée en 1975, autour d'un dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, qui était professeur de philosophie à l'université de Fribourg.
5 étudiants ont senti en même temps un petit peu un appel à se consacrer à la vie religieuse, mais ils ne savaient pas où aller et ils sentaient confusément que leur appel était lié à ce père Marie-Dominique. Et donc ils sont allés le voir en lui disant, voilà, on sent un appel. Alors lui qui était dominicain a voulu plutôt les amener chez les dominicains. Et en allant voir Marthe Robin, il a été souvent dans les foyers de charité de Marthe Robin. Celle-ci lui a dit qu'il ne pouvait pas refuser. Et donc il fallait qu'il fasse quelque chose avec ses étudiants. Très vite d'autres se sont ajoutés et donc là il a vu que vraiment il y avait quelque chose qui pouvait venir de l'Esprit-Saint.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des dominicains?
Je crois que c'est le fait notamment qu'on veut mettre tout l'accent sur Saint-Jean. On a voulu s'appeler Communauté Saint-Jean, au sens de Saint-Jean l'évangéliste, et de mettre tout l'accent sur la découverte de ce que Saint-Jean a été pour le Christ. Et Saint-Jean était très lié au cœur de Jésus. Saint-Jean a reçu la Vierge Marie, Saint-Jean a laissé passer Pierre devant, donc il y a cette alliance avec Pierre. Saint-Jean, parmi les 4 évangélistes, est celui qui nous parle du Verbe. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Il y a cet aspect très contemplatif. Alors on essaye, nous, voilà, avec les pauvres bonhommes que nous sommes, de découvrir progressivement cette grâce qui a été donnée à Saint-Jean et que nous voulons vivre aussi. Je sens de plus en plus le besoin de revenir tout simplement à parler de Jésus et à dire, mais le cœur de notre vie, c'est quand même, c'est Jésus, indépendamment de la forme que ça va prendre. Nous voulons suivre le Christ. Et puis, dans Saint-Jean, c'est vrai, il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en plénitude. J'aime annoncer aujourd'hui, c'est que le Christ nous donne une vie en plénitude. Alors, après, ça prend du temps à voir comment ça va s'emparer de ma vie, moi, de mon quotidien.
Comment est-ce qu'on peut présenter la communauté en termes d'action dans le monde?
Je vous parlais du charisme de la communauté, qui est de mettre nos pas dans les pas de Saint-Jean, d'essayer d'être pour l'Église ce qu'a été Saint-Jean pour Jésus. Et du coup, notre fondateur voulait justement qu'on soit ouvert à peu près à toutes les demandes des évêques, donc sans se définir nécessairement par une action particulière. Donc ça peut prendre des apparences très diverses d'un couvent à l'autre. Ce qui va faire un peu la note qui unifie le tout, c'est cet esprit de Saint-Jean qu'on essaye de vivre. Et puis malgré tout, c'est vrai, comme notre fondateur était un enseignant, on a tous un petit peu quand même ce goût pour communiquer l'évangile selon ce qu'on appelle nous les 3 sagesses. La sagesse mystique, la sagesse théologique et la sagesse philosophique. Tous les frères ont, de par leur formation, un goût particulier pour communiquer ces sagesses-là. Une grâce d'enseignement peut-être.
Vu d'extérieur, vous êtes une communauté très intello. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans?
Au point de départ, c'est vrai que c'est né dans une université autour d'un homme qui a été connu d'abord comme professeur de philosophie. Donc tous les premiers frères avaient un grand désir, non seulement de recherche de la vérité, mais ils étaient liés à l'université. Donc je pense qu'au début, c'est une étiquette qui nous a été un petit peu collée, souvent à raison d'ailleurs. Je pense que maintenant qu'on s'est répandu dans le monde, on garde ce même sens. C'est très important pour nous, cette recherche de la vérité. Et c'est vrai qu'il y a une caractéristique, c'est que dès le noviciat, nous faisons de la philosophie pour qualifier notre intelligence et vraiment rechercher la vérité. Je pense que c'est lié aussi à Saint-Jean, c'est vraiment au cœur de la vocation de Saint-Jean. Mais je ferai une distinction entre quelqu'un qui cherche la vérité et un intellectuel. Actuellement, nous recevons des vocations, ce n'est pas du tout le profil d'intellectuel, etc. Par contre, chacun va essayer, à sa mesure, quel que soit son travail, de mettre tout son effort à chercher la vérité dans ce qu'il fait.
Vous êtes combien aujourd'hui et comment vous répartissez-vous?
On est à peu près 530 frères aujourd'hui, dont à peu près 230 sont prêtres. Et puis on a aussi une communauté de sœurs contemplatives. On a à peu près 300 sœurs contemplatives. Il y a à peu près 150 à 200 sœurs apostoliques. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les oblats de la communauté, c'est-à-dire des laïcs qui vivent dans le monde et qui veulent vivre de l'esprit de la communauté Saint-Jean, de l'esprit de Saint-Jean. On a à peu près 3000 laïcs comme ça. C'est ce qu'on appelle en fait la famille Saint-Jean. Au-delà des frères de Saint-Jean, il y a plus largement la famille Saint-Jean qui recoupe un peu toutes ces branches.
Beaucoup de communautés semblent avoir du mal à recruter aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que ce soit votre cas. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Je crois qu'un jeune aujourd'hui, c'est tellement difficile, le monde est tellement séduisant, que si on rentre, c'est un peu tout ou rien, quoi. On ne veut pas rentrer pour des choses qui sont des demi-mesures. Au fond, un jeune aujourd'hui, il va chercher beaucoup une vérité dans la vie de prière, dans la doctrine, dans l'exercice de la charité fraternelle. Il va être très sensible à ces éléments. Alors voilà, bien pauvrement, nous on essaye de les vivre. Donc peut-être qu'aussi ça attire. Mais on sent une légère baisse de vocation. Toutes les communautés nouvelles voient actuellement une petite baisse. Cette année, ils sont 19, une vingtaine au noviciat en France. Moi, quand je suis entré au noviciat, je crois qu'on était 40.
Est-ce que vous vous considérez charismatique ?
Je crois profondément que l'Église est charismatique depuis la Pentecôte. Donc toute communauté chrétienne est charismatique ou ouverte au charisme. Par contre, on n'est pas charismatique au sens d'un exercice habituel des charismes dans notre liturgie, par exemple. On ne va pas dire, maintenant on va avoir un temps pour imposer les mains et exercer le charisme de guérison, ou on ne va pas chanter en langue pendant l'office, des choses comme ça, comme le font d'autres communautés. On a une liturgie assez classique. Hein. Donc en ce sens-là, nous ne sommes pas une communauté charismatique. Après, je crois qu'aucune communauté chrétienne peut se dire non charismatique, ça serait absurde.
Vous avez évoqué plusieurs fois le Père Marie-Dominique Philippe. Comment est-ce que la communauté a vécu ou dépassé sa disparition ?
C'est un nouveau moment. Vous savez qu'une communauté est considérée comme en période de fondation tant que le fondateur est vivant. Donc, c'est-à-dire jusqu'au 26 août 2006. Donc maintenant, nous sommes dans une nouvelle période qui est justement de garder la fidélité au charisme du fondateur, tout en laissant la vie nous dire progressivement qu'est-ce que c'est justement ce don que l'Esprit-Saint nous a donné, je pense. Le moment de la mort du fondateur, c'est le moment un petit peu de l'institutionnalisation du charisme, au moins de la précision du charisme.
C'était le Père Thomas, vicaire général des Frères de Saint-Jean.
Je vous donne un commandement nouveau.